L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Il paraît qu'en centre Finistère, c'est là qu'on trouve la plus forte concentration d'associations actives en Bretagne. Plus de 40 associations actives pour 1000 habitants. Nous, on connaît bien les associations sur Radio Évasion, puisqu'on en est une nous-mêmes, on fait partie de ce dynamisme. Un jeudi par mois, on reçoit une association Eau et Rivières de Bretagne. C'est souvent le directeur opérationnel, Arnaud Clugerie, et c'est le cas aujourd'hui.
Bonjour oui, Arnaud. Bonjour.
Et Eau et Rivières de Bretagne invite elle-même une autre association chaque mois. C'est le fil rouge, en tout cas, cette saison. Et aujourd'hui, l'invité vient du centre. En effet, c'est Vivre dans les Monts d'Arrée, Beva Ménézaret. Il se trouve qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de la recevoir dans l'EM. Donc, au téléphone avec nous, il y a la présidente Bernadette Lalouette. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Alors, l'association Vivre dans les Monts d'Arrée, Beva et Ménézaret a été créé il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans maintenant. À cette époque-là, on se battait contre un plan d'épandage d'un abattoir de volailles à Guerlesquin. Donc nous avons organisé des manifs, des conférences, 3 jours d'occupation au Roc Trait du Don, des pétitions, tracts.
Donc c'est une grande association. Enfin, votre territoire, c'est quoi, en gros ?
En gros, c'est tous les Monts d'Arrée. Donc depuis Châteaulin jusqu'à Guerlesquin, Comana.
Et vous êtes combien à peu près ?
On est toujours plus ou moins 80. Donc c'est pas une très grande association, mais nous travaillons beaucoup en fait avec les autres associations. Nous adhérons d'ailleurs à Eau et Rivières de Bretagne depuis le départ, et nous travaillons très souvent avec donc les plus grandes associations comme Eau et Rivières, Bretagne Vivante, le groupe Mammalogique Breton.
Et c'est sans doute pour ça que Eau et Rivières a voulu vous inviter. Alors Arnaud, pourquoi est-ce que Eau et Rivières a voulu inviter Vivre dans les Monts d'Arrée ce mois-ci ?
Ah ben oui, d'abord parce que c'est un acteur du territoire et qui est le territoire de Radio Évasion aussi. Ensuite parce que quand je veux mettre en avant cette biodiversité associative, elle fait partie des associations auxquelles je pense immédiatement. Moi, j'ai un lien affectif assez fort avec Vivre dans les Monts d'Arrée. Bernadette ne le sait peut-être pas, mais cette fameuse manifestation au Roc Trait du Don en 2001, je crois, ou en 2000, je ne sais plus exactement. J'y étais mon aîné, ma jeune fille, qui avait à l'époque quelques 6 ou 8 mois, et je me souviens d'avoir été interviewé par France 3 Bretagne avec ma fille dans les bras, avec cette toilette qui trônait sur le rond-point du Roc Trait du Don. Enfin, j'ai des souvenirs. Et puis j'ai des souvenirs d'avoir été approché, enfin d'avoir rencontré le premier président. Je pense que c'était le premier président qui est décédé, Robert Bâtard. Enfin, il y a des gens exceptionnels dans cette association au fil du temps. Et donc, c'était une évidence.
Bernadette Lalouette, vous êtes présidente depuis combien de temps de Vivre dans les Monts d'Arrée ?
Oh là là, ça doit faire une dizaine d'années maintenant.
Ah oui, vous êtes bien rodée. Et alors, cette association, c'est pas uniquement des thématiques environnementales. D'ailleurs, vous avez d'autres thématiques.
Ça tourne quand même, autour de l'environnement.
Alors, en ce moment, quel est le dossier qui vous paraît le plus chaud et dont vous voudriez nous parler ?
Alors, en ce moment, c'est le dossier de Comana, donc depuis l'année dernière, 2019. Il y a eu un projet d'extension d'élevage de 400 vaches hors sol, près des sources du Mougou, un ruisseau qui se jette dans le Drennec. Donc le Drennec, c'est le réservoir d'eau pour 350 000 Finistériens, donc c'est pas anodin. Et puis on a appris que avec cette extension d'élevage hors sol, il y avait couplé un méthaniseur.
Et ça, les méthaniseurs,
on connaît. On a appris qu'il y avait couplé à ce méthaniseur un gazoduc. Et le méthaniseur, le permis de construire avait été accordé sans permis de construire. Donc voilà, ça c'est un gros dossier.
Ça a commencé quand ce dossier-là?
En 2019, donc avec toutes les autres associations, Haut-Rivière, AE2D, Bretagne Vivante, APPMA, l'année dernière, le 30 juin 2019, on a organisé une grande manifestation à Comana qui a réuni quand même 600 personnes.
C'est beaucoup par rapport aux manifestations que vous organisez d'habitude?
Là, c'était beaucoup, surtout qu'elle avait été vraiment organisée en quelques jours. Ça a vraiment rassemblé beaucoup de monde, oui.
Arnaud, Haut-Rivière de Bretagne, sur ce dossier
Oui, il se trouve que j'ai pris la parole ce jour-là à Comana. Évidemment, l'émotion, elle est forte parce que c'est un lieu symbolique et stratégique aussi pour l'alimentation en eau potable. Et on voit cette émotion, elle a ressurgi à l'occasion de l'accident du méthaniseur de Châteaulin. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait s'il se passe la même chose sur le lac du Drennec? Enfin, on n'apprend pas de nos erreurs, quoi, semble-t-il. Donc, je crois que ça a aussi remis ce dossier sur le devant de la scène, d'autant plus que c'est quand même un dossier qui avance plus ou moins masqué, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une approche globale du risque environnemental, on nous découpe ça en tranches en nous proposant à l'instruction administrative une extension d'élevage d'un côté, et puis une autorisation d'exploiter un méthaniseur de l'autre.
Ah oui,
et
sans dire que c'est lié, en fait.
Non, enfin, tout ça arrive par petites tranches, donc en fait, il n'y a pas la possibilité de notamment pour les... Enfin, il n'y a pas la volonté pour le préfet, réellement, de donner un avis en opportunité sur l'ensemble de l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Et nous, on est assez heureux, mais je pense que vivre dans les monts d'arrêt aussi, de voir que du côté des élus aussi, ça commence à réagir. Bernadette le précisera, mais j'ai cru comprendre que le conseil municipal de Comana s'est opposé à la mise en œuvre d'un gazoduc qui devait... être installé le long des routes. Enfin, peut-être que Bernadette peut préciser cette dernière actualité.
Bernadette, oui, préciser donc.
Oui, ça date de la semaine dernière. Il y a eu une discussion au conseil municipal de Comana et une majorité s'est prononcée contre la construction du gazoduc à Comana.
Alors que, d'ailleurs, les Monts d'Arrée, enfin, peut-être que c'est qu'une illusion, mais on a quand même l'idée que dans les Monts d'Arrée, l'agriculture, justement, est préservée. Enfin, c'est une agriculture de taille raisonnable. Est-ce que je me trompe, Bernadette Lalouette?
Elle est relativement préservée, mais c'est quand même un combat de tous les jours, parce que, par exemple, cet agriculteur de Comana a déjà été sanctionné parce que il a abattu des kilomètres de talus. Il est d'ailleurs condamné à les reconstruire, ce qu'il n'a toujours pas fait. Donc c'est quand même une lutte de tous les jours.
C'est pour ça que vous êtes là.
Oui,
vigilant, oui.
Ce dossier, il illustre assez bien aussi notre incapacité à trouver les bonnes orientations, au moins sur des endroits stratégiques comme le sont les aires de périmètre de protection de captage.
Ça devrait même pas exister.
Ça paraît complètement incohérent et pourtant. Et c'est bien dans l'ADN de vivre dans les Monts d'Arrée, parce que leur mobilisation contre les épandages TI-SAPCO au début des années 2000 relevait de la même démarche. On avait un industriel qui avait besoin de se débarrasser de ses boues et qui trouvait que les Monts d'Arrée, finalement, puisqu'il n'y a pas de pression, de concurrence avec les éleveurs de porcs ou autres pour les épandages, voilà, trouvait que c'était bien d'aller sur ces terres qui sont quand même le château d'eau du Finistère. Enfin, c'est assez incroyable qu'on en soit finalement encore un peu à ce niveau-là, quoi.
Bernadette Lalouette, là, c'est un dossier donc, sur lequel il y a ce mélange des enjeux à la fois agricoles et énergétiques. Et l'énergie, ça vous connaît, parce que notamment l'association Vivre dans les Monts d'Arrée fait partie de la commission locale de surveillance de la centrale nucléaire de Brennilis. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y faites? Comment ça se passe, le démantèlement aussi?
Alors, le démantèlement de Brennilis, c'est très compliqué. Donc, nous sommes à la commission locale d'information depuis 2008, depuis sa création, en fait, avec quatre autres associations. Hein. L'enjeu pour les associations à la CLI, c'est d'essayer de mettre ce dossier sur la place publique. Et puis nous demandons, depuis le départ, nous demandons en fait un débat public national sur le démantèlement avant de se lancer dans un démantèlement compliqué. On ne sait pas encore où on va mettre tous les déchets radioactifs. Ça génère des transports radioactifs dans toute la France. C'est ça notre enjeu, c'est de vraiment mettre ce débat sur la place publique.
Parce que là, actuellement, le démantèlement de la centrale, il est à l'arrêt, il continue. Comment ça se passe?
En 2000, je ne me souviens plus, en 2009, je crois qu'ils avaient demandé... il avait déposé un dossier de démantèlement complet. Il reste la phase 3 en fait. Donc c'est la phase la plus compliquée parce que c'est le cœur du réacteur et donc c'est là qu'il y a le plus de concentration de radioactivité. Et lors de l'enquête publique pour ce démantèlement complet, on a alerté tout le monde en demandant justement un débat public, en mettant en face le fait qu'il n'y avait rien pour le stockage des déchets. Donc, en fait, le démantèlement complet a été refusé. Et à ce jour, EDF n'a toujours pas déposé de demande de démantèlement complet. Ça devait être fait en 2020, normalement.
Arnaud, Haut-Rivière fait partie de la CLI.
Oui, avec ainsi que le GMB, AE2D, il y a quelques associations. C'est une commission locale d'information qui est portée par le conseil départemental du Finistère et qui associe aussi des élus, évidemment, et des syndicats. On trouve la CFDT, la CGT, des personnes qualifiées, du monde du nucléaire, des médecins, etc. L'idée c'est, pour les associations, c'est d'éviter un démantèlement à la va-vite, parce qu'on sait là aussi que symboliquement, c'est une des premières centrales nucléaires à être démantelée à l'échelle nationale, et il y en aura d'autres, et on ne veut surtout pas que les choses soient bâclées, et c'est un combat de tous les instants, et c'est un combat aussi difficile, parce que ça demande un niveau d'expertise et de compétence assez élevé, et ce que les associations réclament et arrivent petit à petit à obtenir, c'est que on puisse avoir les citoyens puissent avoir une assistance technique. Il y a notamment l'ARCO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui est devenue partenaire technique. Et puis la mise en place de tableaux de bord pour favoriser le suivi, la compréhension, mais aussi des grilles de lecture pour décrypter les résultats. En fait, c'est vraiment un dossier extrêmement complexe. Et moi, je tire mon chapeau aux bénévoles des associations qui acceptent de se frotter à ce genre d'exercice, parce que c'est vraiment pas simple.
Elle se réunit tous les combien, la commission locale d'information, en gros, sur...
Je ne sais pas. Moi, Bernadette le dira mieux, parce que moi, j'y siège pas directement.
Bernadette ?
Oui, alors, en général, c'est trois fois par an. Alors, on a réussi à obtenir enfin que les réunions soient publiques, donc le public peut y assister. Et une fois par an, il y a une grande réunion publique qui est organisée ici dans le coin. Alors le problème, c'est que cette année, c'est un petit peu compliqué de se réunir. Donc là, ça va être en visioconférence, je crois, au mois de décembre.
Bon, on préviendra les auditeurs, en tout cas, quand on aura reçu l'avis de réunion de la CLI, puisque c'est public. Vous avez d'autres dossiers liés à l'environnement. Il y a eu, notamment, vous étiez en partenariat avec le Gaspar. Alors là, c'est sur la centrale de Landivisiau, c'est ça?
Oui, nous avons adhéré à Gaspard dès le départ, parce qu'en fait, au départ, il y avait Brinilis qui était un lieu possible pour l'implantation de cette centrale à gaz. Donc depuis, nous avons toujours soutenu Gaspard. Nous soutenons Force 5 en ce moment, qui porte un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
Qu'est-ce que c'est Force 5 ?
Alors Force 5, c'est une association qui est dans les Côtes d'Armor, en fait.
Dans le Petit Trégor.
Qui a été très impliquée dans le combat de Gaspard.
Arnaud, Haut-et-Rivière aussi est impliqué dans cette lutte contre la... Enfin, c'est une centrale à gaz, mais ça avance en plus, là, je crois.
Ah bah, les travaux ont démarré, et c'est vrai que comment dire, et malgré la forte mobilisation citoyenne pour essayer de montrer que cette centrale finalement n'était pas dans le sens de l'histoire, bah, les travaux ont malgré tout démarré, et c'est vrai que je suis content que Bernadette souligne le travail remarquable de Force 5, qui est aussi une association membre de Haut-et-Rivière de Bretagne, dont le président Jean-Yves Kemener est à la une de l'actualité, peut-être malgré lui d'ailleurs, depuis quelques semaines, puisqu'il était devant les tribunaux et il a été condamné sans être sanctionné, mais condamné pour avoir fait entrave aux travaux alors, de sa personne. Il était assis sur la route, hein. faut ramener les choses à leur juste réalité. Et aujourd'hui, dans la presse régionale quotidienne, cette association s'exprime pour dire que, y compris juridiquement, puisque le Conseil d'État finalement leur a donné raison, sans vouloir mettre fin aux travaux, enfin, vous lirez la presse là-dessus, en fait, l'association Force 5 saisit la Cour européenne des droits de l'homme pour montrer qu'il y a aussi des combats qui donnent lieu à des victoires à la Pyrrhus, c'est-à-dire que on a raison de se mobiliser, mais finalement on n'arrive pas à freiner le train, donc c'est assez navrant, et c'est vrai que heureusement qu'on peut s'entraider, qu'on peut coopérer entre les assos comme le font Force 5 et Vive dans les Monts d'Arrêt avec d'autres, parce que c'est finalement parfois le seul soulagement qu'on peut trouver quand on est mis en échec comme ça.
Bernadette Lallouette, donc Vivre dans les Monts d'Arrêt, est-ce qu'il y a d'autres sujets environnementaux qui vous ont préoccupé ou qui vous préoccuperont, mais peut-être moins, de manière moins immédiate ?
Il y a eu aussi les combats contre les épandages, contre les pesticides.
Je crois que vous étiez mobilisé sur les...
En 2019, par exemple, on a collaboré avec Pic Braise en organisant une pisserie à Saint-Rivoil.
Ah, c'est quoi ça?
Alors, c'est Pic Braise, donc c'est un collectif qui lutte contre les pesticides, et ils organisent ce qu'ils appellent des pisseries, c'est-à-dire que les gens vont faire analyser, vont faire un prélèvement d'urine devant en présence d'huissiers, et vont les faire analyser ensuite. Et il y a eu des milliers d'analyses faites en Bretagne, et toutes les analyses se sont révélées positives. Donc tout le monde a du glyphosate dans ses urines.
Arnaud, les pesticides, justement, il y a une actualité là-dessus pour les rivières de Bretagne.
Oui, l'intérêt de ce travail d'identification de la présence de pesticides et du glyphosate notamment, elle révèle aussi, elle ne fait qu'appuyer les faits. Là, on a la publication dans le rapport du programme de lutte contre les pesticides et Ecophyto, des données pour 2019, et elles ne sont pas très glorieuses. Il s'est vendu 1 880 000 kilos de pesticides, de matières actives de pesticides en Bretagne en 2019, parmi lesquels 350 000 kilos, donc une bonne partie sont les plus dangereux, ceux classés cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et en matière de qualité de l'eau, parce que ça c'est l'observatoire des ventes, mais en matière de qualité de l'eau, le suivi opéré depuis 2002 par la CORPEP, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette instance, classe le produit de dégradation du glyphosate, la MPA, sur la première marche du podium, avec un désherbant maïs et un désherbant désherbants, comment dire, de colza. Et en gros, pour compléter avec quelques chiffres, on a trouvé jusqu'à, en 2019 jusqu'à 55 molécules dans un seul échantillon de rivière. Donc ça, c'est le plus qu'on ait trouvé. On a trouvé jusqu'à 42 microgrammes par litre de concentration sur un seul échantillon, là où l'eau n'est considérée comme plus potable à 0,1. Et puis, dans 97% des prélèvements, faits sur les stations, là cette fois-ci sur les stations de production d'eau potable, on considère que s'il n'y avait pas eu de moyens de traitement adaptés contre les pesticides, l'eau n'aurait pas été conforme. Donc ça laisse de belles années encore pour les producteurs d'eau potable, parce que en fait, ces chiffres-là montrent que nos milieux sont contaminés par ces molécules, et que même si on arrive à protéger l'espèce humaine en traitant l'eau potable, on ne traite pas tous les dégâts que produisent ces molécules dans le milieu naturel.
Et encore, si vous refaites des analyses d'urine aux rivières, peut-être que vous aurez encore des mauvaises surprises aussi. Bernadette Lalouette, est-ce que vous voulez, pour terminer, nous parler de quelques autres dossiers qui ne soient pas liés à l'environnement et qui tiennent à cœur à l'association Vivre dans les Monts d'Arrée ?
Non, je crois qu'on a fait, quand même, après, j'essaie de... Non, on a fait à peu près le tour de nos luttes. Il y a eu d'autres combats contre les projets miniers aussi en 2016.
C'était où, à l'OPEREC, non ?
Oui, c'était l'OPEREC Braspa.
C'était des mines de quoi ?
C'était à l'OPEREC, c'était de l'or.
Ouais, je me souviens qu'on avait commis ensemble Vivre dans les Monts d'Arrée. Comment s'appelait l'association qui s'est dissoute depuis ? Attention Mine ou je ne sais plus.
Stop Mine,
c'était ça, à l'OPEREC. Je me souviens qu'on avait fait une analyse d'arsenic à la sortie du site où avaient été faites des explorations dans les années 90 et trouvé des taux alarmants d'arsenic. Et d'ailleurs, je crois que notre mobilisation, pour le coup, elle a payé, puisque sur l'OPEREC, l'idée de rouvrir une mine dans la perspective de chercher de l'or a été abandonnée. Et voilà, ça fait partie des choses quand même qui nous font nous rendre compte qu'on a une forme d'utilité.
Et à Braspar, Bernadette, c'était quoi ?
C'était le projet minier aussi. Hein, c'était ça. Il y avait aussi.
C'était de l'or aussi ?
Ça touchait Braspar.
Et c'était de l'or également ?
Oui.
Et qui pollue à l'arsenic, en fait, c'est ça le problème.
On avait d'ailleurs co-organisé, il me semble, une soirée conférence à Braspar qui avait rassemblé près de 200 personnes, qui était une belle soirée d'information et de débat public.
Oui, parce que Bernadette Lalouette, en fait, Vivre dans les Monts d'Arrée, organise des manifestations, mais pas seulement, je suppose.
On a fait des manifestations, des conférences, des ciné-débats, quelques fêtes aussi. Des tracts, des pétitions, c'est ça nos moyens d'action surtout.
Et pour suivre votre actualité, vous avez donc un site internet, c'est Bevanemenezare WordPress, on le mettra sur le site de Radio Évasion. Vous avez une page Facebook ou d'autres, des réseaux sociaux
Non.
D'accord.
Non, c'est un courriel.
D'accord. On le transmettra sur la page de Radio Évasion. Arnaud, pour terminer, un petit mot d'une action sympathique organisée pendant le confinement et qui, je crois, a bien pris par Eau et Rivière.
Ben oui, on était en train de faire les statistiques. On a relayé une idée qu'on n'a pas eue. Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons eue, c'est de nettoyer son kilomètre. Vous savez qu'on a été confinés et contraints de se promener dans un périmètre très restreint. Et donc, on a invité les gens pendant la semaine de réduction des déchets, la semaine européenne, qui était la semaine dernière, à nettoyer leurs kilomètres. Et on a eu, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de contributeurs. On en est arrivé à 352 participants qui ont ramassé, sans doute plus que ça, parce que certains l'ont fait sans nous renvoyer leurs photos, mais ramassé de 760 kilos de déchets dans les fossés.
Dans toute la Bretagne.
Dans toute la Bretagne. Et même, on a eu des contributeurs ailleurs en France. Alors, sur le palmarès, c'est le Finistère qui s'est le plus mobilisé, avec 230 kilos ramassés. Et à chaque fois, on avait un peu les mêmes retours, des gens qui partaient avec un sac en main, en se disant, crois pas que je vais en ramasser beaucoup, et qui rentrait avec 2, 3, 4 kilos. En fait, on se rend pas compte à quel point nos fossés sont remplis de déchets. Alors le palmarès, c'est des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des canettes, et puis c'est vraiment ce qu'on trouve le plus, des emballages plastiques, et puis on a trouvé évidemment beaucoup de masques, ce qui fait que ça, c'est aussi révélateur des pratiques de notre société et du jetable. Et donc on invite évidemment, et c'est l'objet de la semaine de réduction des déchets, qui est pas tant là pour ramasser les déchets des autres, mais pour plutôt réfléchir à comment réduire. Et donc réduire, c'est plein de petites actions, c'est refuser des sacs plastiques dans les commerces, c'est préférer le vrac, et puis c'est aussi, on l'a découvert, laver ces masques. Vous savez, même les masques chirurgicaux, il y a une étude qui a été publiée par l'UFC qui montre que ces masques restent
efficaces. Oui, les soi-disant jetables, on peut les laver.
Voilà, restent efficaces après 5 ou 6 lavages. Donc on ne peut qu'inviter les gens à utiliser des masques réutilisables ou à laver leurs masques jetables. Voilà, en tout cas, c'était une belle façon de se mobiliser en distanciel et en respectant les gestes barrières, et on invite évidemment les gens à continuer, évidemment.
Et puis de toute façon, la réduction des déchets, c'est l'objet de la chronique de Marie Cultive dans la deuxième partie de l'EM tous les jeudis. Nous, on est toujours très mobilisés là-dessus. Bon, merci Arnaud. Donc on retrouve au Hérivière dans un mois avec une autre association. Merci aussi à l'association Vivre dans les Monts d'Arrêt qu'on retrouvera, j'espère, directement dans le studio prochainement. À bientôt.
Allez.